Section 3. Durant les 5 ou 6 mois que je passais à la maison, tout en suivant les cours du collège, mon éducation fit un pas immense, moins par ces cours-là que par mes études particulières à la maison. Car, à dire le vrai, je faisais très souvent l'école buissonnière. Je n'avais que ces moments-là pour me distraire, et puis le latin m'inquiétait fort peu. Que de fois m'est-il arrivé, après avoir fait quelques escapades avec mes camarades et avoir manqué la classe, de lire une grande partie de la nuit, en ayant soin de mettre quelque chose devant ma chandelle pour intercepter les rayons. À la maison, ce n'était plus comme à Alix, où l'on eût mis Boileau à l'index, si on eût osé. Je pouvais me procurer toutes sortes de livres à mon choix, tant à la bibliothèque que de la maison, il n'y avait que de bons, que dans les cabinets de lecture de la ville. La première lecture de toutes fut le cours de littérature de la harpe, dont j'aimais beaucoup le style. Je n'estimais guère son caractère, car je ne l'ai jamais cru de bonne foi dans ses opinions religieuses. Molière vint ensuite, et cela par hasard, car je ne le cherchais pas, n'ayant qu'une vague connaissance par la harpe. Une fois que j'y eus goûté, je dévorai. Je l'ai peut-être lu 20 fois de suite, et toujours avec un nouveau plaisir. C'est avec lui que j'aimais à observer les hommes. Puis après vint Le Sage à son tour avec Gil Blas. Il m'amusa beaucoup, mais je le goûtais moins dans le principe que je ne l'ai fait par la suite. Par une bonne raison, c'est que quelque peu d'estime que j'eusse pour les hommes, je ne pouvais encore les croire si corrompus. Bon, depuis, j'ai très bien reconnu qu'il n'avait rien outré, et j'étais obligé de lui rendre cette justice, qu'il n'avait été qu'un peintre fidèle. Peut-être même le tableau ne serait-il pas assez chargé aujourd'hui. Je lisais beaucoup le bon La Fontaine. Quant à lui, je ne l'avais jamais perdu de vue. Nous étions de vieux amis, il y avait longtemps que je le savais par cœur. Comme ces lectures étaient très sérieuses pour moi, par l'application que je voulais en faire à ce qui se passait sous mes yeux, pour me distraire de temps en temps, je louais des romans, mais en cachette de ma famille. Pour les premières fois, je me rapportais au choix du libraire, qui me donnait tantôt Madame de Genlis, tantôt Duret du Ménil. Quelle lecture ! Ouf ! J'en fus bientôt là. Je choisis alors moi-même, et je lus avec plaisir Don Quichotte, le roman de l'abbé Prévost, de Madame Gottin, quelques secondes de Marmontel. Mais ces ouvrages, sauf le premier, ne me plaisaient guère. Malheureusement, Walter Scott n'écrivait pas encore ces chroniques si intéressantes. Je me souviens qu'à ce moment-là, Sterne me tomba sous la main. Je le lus, mais je sentis que ce n'était pas encore à ma portée, et je le notais dans ma tête, bon à relire plus tard. Comme personne ne me guidait dans mes lectures, je les faisais pour ainsi dire au hasard. L'histoire ne me tomba entre les mains que quelque temps avant la fin des vacances. Sans cela, elle eut presque tout absorbé. Ça a été depuis ma lecture favorite, celle où j'ai toujours trouvé le plus d'instruction pour celui qui sait lire, car cette instruction se base sur des faits. Les hommes sont les mêmes à toutes les époques. En voyant ce qu'un homme a fait dans telle circonstance, vous pouvez vous attendre à ce que fera un autre dans un cas pareil. C'est une échelle de proportion qui peut toujours s'appliquer à propos. Quant aux philosophes du XVIIIe siècle, Voltaire, Helvétius, Diderot et d'Alembert, etc., quoique je les connusse parfaitement de nom et de réputation, quoique l'horreur qu'on avait voulu m'inspirer contre eux fût un attrait de plus pour moi, je m'en abstins parce que je voulais me créer un système basé sur des faits, un système qui fût mien et non le résultat des 20 000 théories que j'aurais trouvées dans leurs livres. J'ai toujours été un homme très systématique. Peut-être est-ce pour cela que je suis entêté dans mes opinions. Un système est un véritable dada. Une fois qu'on le grimpe, c'est fini. Si les lecteurs ont suivi jusqu'ici avec attention le fil de ces mémoires, surtout l'esprit dans lequel ils ont été rédigés, ils se seront aperçus sans doute que je n'avais pas encore parlé de ma première communion. Bon, mon intention n'est pourtant point de la porter à passer sous silence. Cette circonstance est trop importante dans la vie pour que je n'en donne pas ici quelques détails. Mon frère avait, comme on sait, 4 ans de plus que moi. Il avait donc dû nécessairement me précéder dans cette imposante solennité. Outre que son caractère uni et sans aucun angle saillant n'y avait pu mettre de retard. Cependant, comme il était alors d'une santé assez fragile et qu'il tomba justement malade à l'époque ordinairement désignée pour cette cérémonie, on fut obligé de la lui faire retarder quelque peu, de sorte qu'elle arriva justement au moment des vacances. J'étais à la maison, alors je pus observer. Mon frère était certainement une excellente patte d'homme, qui, j'en suis sûr, n'a jamais eu l'idée du crime. Je ne crois pourtant pas qu'il ait jamais eu plus de disposition à la dévotion que moi. Mes sœurs même, quelque vertueuses qu'elles fussent, n'avaient tout juste de religion que ce qui convient à une femme, et ne remplissaient le devoir que machinalement et sans ferveur. Cette observation n'est pas sans importance si l'on considère qu'elle était l'exagération des principes religieux de mes parents. Quant à moi, je tenais à voir de quelle manière mon frère remplissait un devoir que l'on me peignait comme si important pour le reste de la vie. Je m'attachais à observer s'il comprenait seulement ce qu'il allait faire. Je m'aperçus que non. Et certes, il y a bien d'autres enfants de son âge qui sont dans le même cas. Il n'avait que 11 ans. Mon frère fit donc sa première communion presque sans douter, parce qu'il fallait qu'il la fît. 3 lignes censurées. En revenant de l'église, mon frère eut une légère altercation avec ma mère, ce qui, du reste, était assez rare, parce que ma mère avait l'habitude de céder. Malheureusement, celle-ci tomba ce jour-là. Ma mère, forte de la position où se trouvait mon frère, qu'elle croyait tout absorbé en Dieu, se permit de pousser la discussion un peu plus avant que d'ordinaire, d'où il résulta que son benjamin, selon sa louable coutume, l'envoya promener en termes fort peu respectueux et surtout fort peu convenables dans la bouche d'un enfant qui venait de s'approcher de la sainte table. J'étais présent à cette scène. Ce fut comme un coup de poignard porté au cœur de ma mère. Elle fut se renfermer dans sa chambre en versant un torrent de larmes. Elle y resta longtemps. Si j'avais osé, je serais allé la consoler, mais j'aurais été mal reçu. Je me contentais de rendre hommage en moi-même à la religion catholique et au bonheur qu'elle répandait dans les familles. C'est toujours à ces marques que je l'ai reconnue. On sent bien que ce n'est pas à Alix que l'on m'eût jugé digne de participer au saint mystère. Cette question n'avait jamais été agitée. Au reste, autant que je puis croire, c'était d'une classe trop avancée pour que l'on pût douter que je n'avais pas encore fait ma première communion. On négligea donc même de s'en informer, et ce ne fut pas moi qui cherchais à relever leur erreur. Je pense sincèrement que dans aucune institution où l'on m'eût eu continuellement sous les yeux, on ne se serait décidé à me la faire faire. Pour y parvenir, il ne fallait rien moins que la position où je me suis trouvé après mon exclusion du collège de Lyon. J'avais 15 ans alors, c'était le temps ou jamais d'en finir. Mes parents me tourmentaient tous les jours à ce sujet. Quant à moi, je ne demandais qu'à en être débarrassé, sans être obligé de jouer un rôle d'hypocrite, la chose du monde qui me répugnait le plus. Heureusement, dans une paroisse, ce n'était pas comme dans un collège. Personne ne savait ce que je faisais, ce que je pensais. Sur la réputation même de mes parents, mes prêtres me prirent pour un jeune homme très dévot. Mon père m'avait d'abord fait et inscrire au catéchisme. Puis moi, sous prétexte des cours et des études du collège, j'en fus demandé une dispense, de sorte que je ne m'y représentais plus que 2 ou 3 fois au plus. Je fus néanmoins reconnu bon pour communier. Je reçus l'absolution en bonne forme de mon confesseur, qui, tout simple homme, jusqu'à ma mine que je n'étais guère disposé à ce que j'allais faire, jugea et m'engagea même à différer quelque temps. Je lui répondis hardiment: Oh, je vous assure, mon père, que je ne serai pas mieux disposé dans 10 ans. Il ne comprit pas le sens de mes paroles, abominablement jésuitiques, et me renvoya bien et dûment absous. Talma était à Lyon à cette époque. En sortant du confessionnal, moi, qui devais faire ma première communion le lendemain, je fus voir jouer Manlius. Et comme je revenais un peu tard à la maison, je dis pour excuse que je n'avais pas pu quitter l'église plus tôt. Je fus me coucher tranquille là-dessus, pensant plutôt à Manlius qu'au Dieu fait homme dont je devais me nourrir le lendemain. 3 lignes censurées. Est-il donc étonnant que je sois devenu un scélérat? Bon, parlons sérieusement maintenant, je le répète. J'ai toujours détesté l'hypocrisie, mais cet acte était tout à fait forcé de ma part. Ce n'était qu'à ce prix-là que je pouvais avoir la paix avec ma famille. Mon frère avait eu un cierge superbe ce jour-là. À moi, on m'en donna un qui ressemblait à une chandelle de 6. On me donna en outre 20 sous pour mettre au bassin. J'y mis 10 centimes, mais je donnai 10 francs aux pauvres en sortant. On verra tout à l'heure d'où venait cet argent. Du reste, je dois dire ici en passant que toute ma vie j'ai été très charitable et que si j'ai détesté les heureux du siècle à cause de leur égoïsme, j'ai toujours, du moins autant qu'il a dépendu de moi, cherché à secourir les malheureux. Je n'ai jamais aimé avoir souffrir personne. Ma première communion était le dernier acte de religion de ma part. Depuis, je cessais de reparaître à ma paroisse, au grand désappointement du curé. Je m'abstins même de me faire confirmer, tout en cherchant à persuader mes parents que je l'avais été. Jusqu'à mon exclusion du lycée, toujours enfermé à la maison, sans camarades, je n'avais jamais eu l'occasion de dépenser de l'argent. Lorsque je partais pour le collège, mon père m'en donnait quelque peu et en remettait pour moi au directeur. On avait si peu d'occasions de dépenses que jamais je n'en avais manqué. Par conséquent, je n'en connaissais guère la valeur. Je ne l'avais jamais considéré même comme un moyen de jouissance. Mais une fois externe au collège et arrivé à un âge un peu plus avancé, où j'avais alors à peu près 14 ans, je fréquentais dans nos écoles buissonnières quelques camarades à peu près de mon âge. Je n'avais que le moment de la classe pour me procurer quelques plaisirs, puisqu'une fois cette heure passée, il fallait rentrer au logis, n'en plus ressortir. Ces heures de distraction, prise aux dépens de l'étude, ne m'empêchait pas, comme on l'a vu, de m'instruire seul à la maison, au moyen de lectures suivies, poussées même souvent bien avant dans la nuit. Mais on conçoit qu'entre 4 ou 5 jeunes gens de 15 à 16 ans, il ne devait pas être toujours question d'école buissonnière, c'est-à-dire de promenade dans les bois. Nous faisions de temps en temps de petites parties de plaisir. Quelquefois même, nous allions jouer aux boules au Brotteau, ou essayer quelques carambolages. Cela coûtait un peu d'argent. En véritable frère, on payait les uns pour les autres, c'est-à-dire ce qu'il y avait pour ce qui n'en avait pas. Dès le commencement, j'étais toujours un de ces derniers. Mon père et ma mère se seraient fait un scrupule de me donner un sou. Cependant, il ne convenait pas à mon caractère de toujours laisser payer pour moi. D'un autre côté, il fallut me décider à abandonner tout à fait cette société. C'était la première à ma convenance que j'eusse rencontrée. Il me coûtait de m'en séparer. Déjà, dans son sein, je m'étais dépouillé de mes manières raides et maussades, et je les avais remplacées par un grand laisser-aller. Mais une fois hors de ce cercle d'amis, je redevenais le même qu'auparavant. Je cherchais donc dans ma tête le moyen d'accorder mes inclinations avec ma susceptibilité et de me mettre à même de payer mon écho et de prendre ma revanche avec les camarades qui m'avaient prévenu si obligeamment. Pour me procurer de l'argent, je ne trouvais de plus bel expédient que de vendre un dictionnaire grec dont je pouvais me passer très aisément. Il avait coûté 20 francs, je leur en vendis 6. Dans le moment où j'étais occupé à me défaire agréablement de l'argent que je m'étais procuré de si belle manière, mon frère me rencontra avec mes braves compagnons de plaisir. C'étaient la plupart des fils de bons négociants de Lyon. Il sut que j'avais payé quelques frais et me demanda où j'avais pris l'argent. Je commençai par nier que j'eusse aucun argent, mais il ne se contenta pas de cette raison. Enfin, il cherchait à m'arracher mon secret, mais il ne pouvait pas en venir à bout. Ses reproches n'avaient rien de bien redoutable. Il me paraissait vouloir seulement connaître la source où j'avais puisé. Et il finit bientôt par me dire « Ah, mais pour avoir ainsi de l'argent, il faut nécessairement que tu en voles à la maison. »« En voler à la maison ?» répondis-je avec étonnement. « Mais c'est impossible. Est-ce que ma mère n'a pas toujours la clé de son armoire sur elle ?» J'avais effectivement remarqué que l'argent du ménage était dans l'armoire de ma mère. Mais quand elle n'était pas dans sa chambre, je n'y voyais jamais la clé. Mon frère savait mieux que moi ce qu'il en était. Il avait alors 19 ans, il fréquentait peu les jeunes gens de son âge et n'aimait pas leur société. Il préférait beaucoup celle des grisettes et des femmes de moyenne vertu. Il avait même eu l'effronterie d'introduire à la maison une de ses maîtresses, comme lingère à la journée. Ma mère le sut après et ne la renvoya pas, tant était fort son engouement pour mon frère. Cependant, toutes ses connaissances nécessitaient des frais auxquels, malgré toute la bonne volonté de ma mère, il ne pouvait suffire. Mon père, dont les affaires étaient dérangées depuis quelque temps, devenait de plus en plus économe et cherchait querelle à ma mère toutes les fois que lui demandait de l'argent pour les frais du ménage, qui se montaient bien à 1 000 francs par mois au moins. Il ne se doutait pas que ma mère en détachât une partie en faveur de mon frère. Oh, s'il le sut, il fait beaucoup bruit. Lui qui nous connaît sans cesse aux oreilles, que dans sa jeunesse, il n'avait pas dépensé 10 francs pour son plaisir en 2 ans. Et c'était vrai. Mon frère, n'osant pas en demander à ma mère, en certains moments où ses dépenses avaient dépassé le budget ordinaire, s'avisa de saisir le moment où elle n'était pas dans sa chambre et lui prit quelques pièces de 20 sous. La première fois, ma mère n'eut qu'un léger doute sur la soustraction. Mais ce doute suffit pour y faire mieux attention. À la seconde fois, sûre de son fait, elle porta ses soupçons sur moi et vint un beau jour fouiller dans mes poches et dans ma chambre au moment où j'étais couché pour voir si je n'aurais pas encore par hasard sur moi quelques pièces de conviction. Elle ne trouva rien et se garda bien d'en parler à mon père qui eut une scène affreuse à la maison. Quant à moi, j'ignorais parfaitement cette circonstance et le motif qui avait amené ma mère dans ma chambre. Elle ne m'en avait rien dit, mais elle ne put le cacher à mon frère. Et tout en lui découvrant qu'on lui avait pris de l'argent, elle lui avoua que c'était moi qu'elle soupçonnait. Mon frère se garda bien de la détromper. Et pour prévenir une prétendue récidive de ma part, elle l'avertit qu'elle allait retirer la clé de son armoire toutes les fois qu'elle sortirait de sa chambre en la mettant sous le chevet de son lit. Mon frère s'était risqué à voler parce qu'il pensait que l'on ne s'apercevrait pas. Mais aussitôt qu'il sut que ma mère était sur ses gardes, il y renonça, du moins par lui-même, de crainte d'être pris sur le fait. Mais il avait conçu une idée qui consistait à se servir de moi pour tirer les marrons du feu. Aussi, lorsque lui eut formulé ma réponse, ou plutôt ma demande, mais est-ce que ma mère n'a pas toujours eu sa clé sur elle? Oh, tu fais l'ignorant, me répondit-il. Tu sais bien que non, tu sais bien où elle la met. Non, lui dis-je, je n'y ai jamais fait attention. Eh bien, me dit-il, je te dirai qu'elle la met sous son chevet. Il n'y aurait rien d'aussi facile que d'entrer dans la chambre lorsqu'elle n'y est pas et d'ouvrir l'armoire. Je conçus son idée de suite. Bon, répondis-je, et si elle entre au moment où j'aurai la main dans le sac? Ah, mais s'il, me répondit-il, est-ce que je ne serais pas là pour l'amuser? J'avais besoin d'argent, je ne croyais pas qu'il y eût grand mal à en prendre un peu à mes parents, qui passaient pour riches. Cependant, je ne m'y serais jamais décidé de moi-même si je n'en eusse reçu la proposition formelle de la part de mon frère. J'acceptai donc et notre nouvelle société se forma. Et tout aussi bien, je vous jure, que celle des premiers et des plus fins voleurs de Paris. Nous avions des signes à nous connus et même des mots d'argot de notre composition que personne d'autre que nous ne pouvait comprendre. Mon frère, avec son air sucré, était dans ce genre-là un compère presque aussi rusé que moi. C'était lui qui avait inventé notre argot, qu'il savait bien dans ces moments-là enjôler et caresser ma mère. Eh bien, c'était justement en cet instant qu'il me parlait à moi également. Lorsqu'il disait à ma mère, embrasse-moi, cela voulait me dire à moi, et va vite. Lorsqu'il disait, embrasse-moi 20 fois, 30 fois, 40 fois, c'était me dire, prends 20, 30, 40 francs. La première fois, j'avais pris 80 francs. Je lui en remis 60 et j'en gardais 20. Depuis, c'est toujours à peu près sur ce pied-là que nous nous partageâmes. Je sentais qu'à son âge, il avait plus besoin d'argent que moi. Nous ne faisions que des dépenses d'enfants. Maintenant que j'examine le passé avec sang-froid, je ne puis m'empêcher de reconnaître que ces vols commis dans l'intérieur de ma famille ont eu une grande influence sur ma conduite subséquente, non quant au principe. Rien ne pouvait les changer ni les modifier. Mais tout en reconnaissant alors, comme je le reconnais encore aujourd'hui, que celui qui n'a pas et qui meurt de faim a le droit. 5 lignes censurées. En reconnaissant, dis-je, ce principe, je suis obligé d'avouer que j'aurais hésité bien plus longtemps à commettre mon premier vol si je n'en eusse fait, pour ainsi dire, un long apprentissage à la maison. Enfants, ne volez jamais vos parents. En vain direz-vous pour votre justification que ce n'est qu'un avancement en douairie, puisque ce qu'ils ont doit vous appartenir un jour. En supposant que vous ayez raison sous ce rapport, ce qui pourrait pourtant être facilement contesté, je vous dirais, le mal ne consiste pas dans cette fausse propriété que vous vous attribuez, mais dans les capitulations que vous êtes forcé de faire à votre conscience, dans cette habitude de dissimulation que vous contractez, enfin dans ces véritables allures de voleur, qu'a aussi bien celui qui vient en secret mettre la main à la caisse de son père que celui qui s'attaque au coffre-fort du voisin. Le premier pas est fait. Il vous a coûté. Songez que le second ne vous coûtera guère plus, et le troisième beaucoup moins. Mon frère, qui certainement n'a pas joué le plus beau rôle dans notre société, et qui certainement était le plus coupable, a gardé un immense avantage sur moi. C'est de ne pas s'habituer au calme et à la présence d'esprit en commettant un vol. Ce qui fait que je suis persuadé que, hors de la maison, il n'eût jamais osé rien dérober. Vous me direz qu'un homme qui ne vole pas parce qu'il n'ose pas en est guère honnête. D'accord, mais le procureur du roi ne lui peut rien. Quant à moi, il est certain que je n'ai jamais eu la conscience bien timorée dans les choses pour lesquelles les autres en général se montrent les plus susceptibles. Victime de l'injustice dès mon jeune âge, j'étais devenu tout à fait systématique. Je m'étais créé une manière de voir bien différente de celle des autres hommes. Cependant, tout en les méprisant, je ne leur voulais aucun mal. Alors, les injustices que j'avais éprouvées me venaient presque toutes de la part de mes parents. Je ne pouvais nourrir aucun ressentiment contre eux. J'ignorais encore ce besoin de vengeance qui a été depuis si violent pour moi que, quelque flegmatique que je sois devenu, quelque maître de mes sentiments et de mes émotions que j'ai été, je n'ai jamais pu dompter cette passion. Oh, alors, j'en conviens, je devenais méchant et cruel même. Malheur à celui qui m'offensait, si je pouvais saisir un moment favorable. C'était d'autant plus dangereux que je me vengeais qu'à coup sûr, et que je ne laissais rien paraître de ma haine jusqu'à l'instant propice pour la satisfaire. Mais à l'époque de ma vie que je décris en ce moment, j'ignorais encore cette passion qui ne s'est développée que fort tard. J'étais un homme systématique, comme je viens de le dire, mais j'étais juste, du moins, j'ai presque toujours cru l'être. Il n'est pas étonnant que, m'écartant tout à fait et avec préméditation des sentiers fréquentés par le reste de la société, je me sois trompé bien souvent. Plus je réfléchis et plus je pense que si je n'avais jamais volé mes parents, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et pourtant, il ne m'aurait pas fallu m'en savoir trop de gré, car la théorie ou le principe eût toujours existé au fond de mon cœur. La pratique seule y eût manqué. Car dans ce funeste apprentissage que j'ai fait ainsi dans l'intérieur de ma famille, j'aurais eu, je pense, beaucoup de répugnance à vaincre pour me décider à voler. Mais n'avais-je pas été déjà un véritable voleur chez mon père? En effet, quoique je ne me crusse pas bien coupable en m'appropriant une partie de ce que je pensais devoir être un jour ma propriété, n'avais-je pas eu à surmonter 1000 sentiments d'amour-propre et de délicatesse? N'avais-je pas eu à calculer toutes les chances de réussite, à m'habituer d'avance à la honte d'être surpris, à la braver ainsi que le mépris de mes sœurs, qui eût été alors pour moi aussi cruel que plus tard le mépris de la société tout entière? C'est donc à ce triste antécédent que j'attribue ma perte. C'est donc à mon propre frère que je la dois. Cela est horrible à dire, mais cela est vrai. À peu près à la même époque, je fis une autre espèce d'étourderie qui a encore eu pour moi un résultat que je ne saurais expliquer, mais que je comprends. Je l'ai dit souvent, je me dispensais de suivre les cours du lycée que je remplaçais par quelques parties de plaisir. Mon absence de la classe se prolongea une fois pendant près de 15 jours. Mon professeur en rendit compte au proviseur qui crut devoir en avertir mes parents. Il écrivit donc deux mots à ce sujet à mon père. La lettre venait d'arriver au moment où je rentrais à la maison. Ma mère m'en prévint et me fit même voir la lettre qui était sur son lit. Je me doutais de suite de ce que le proviseur pouvait avoir à écrire à mon père. Et sans plus de réflexion, par une inspiration subite, je saisis adroitement la lettre en question et courus m'enfoncer dans ma chambre. J'étais certain que mon père ne rentrerait qu'à 2 heures, suivant son habitude. J'avais encore 1 heure devant moi. Je pris une feuille de papier que je pliai d'une manière exactement semblable à la lettre que je voulais soustraire. Je contrefis la signature du proviseur et j'écrivis dans son nom à mon père que, le trimestre étant échu depuis quelque temps, il le priait de vouloir bien passer à la caisse de l'économe pour le régler. Une fois cette belle lettre terminée, je fus la placer à l'endroit où j'avais pris la première. Elle fut remise de suite à mon père à son arrivée. Il n'y trouva rien d'étrange et ne fut étonné que de l'oubli qu'il avait commis en ne soldant pas plus tôt la rétribution universitaire. Pour la réparer, il me donna l'argent à moi-même en me recommandant de passer chez l'économe et de lui rapporter le reçu. J'eus presque envie, pour continuer la plaisanterie, de fabriquer un reçu et de garder l'argent, mais je ne succombai pas à cette tentation. Sur le moment, personne ne se douta du tour que j'avais joué, et le proviseur, la conscience en repos par l'avis qu'il avait donné à mon père, et qu'il croyait bien lui être parvenu, ne s'occupa plus de moi. De sorte que j'eus toute liberté de m'absenter quand bon me semblait. 3 mois peut-être après, tout se découvrit par hasard. Mon père traita cette affaire-là aussi sérieusement qu'un procureur du roi chargé de poursuivre un faux en écriture publique. Mais voici le plus beau. 2 jours après, j'eus à sortir avec mon père. Nous traversions ensemble la place des Terreaux. C'était un jour d'exécution. Nous n'en savions rien, ni l'un ni l'autre, et nous nous en aperçûmes qu'en face de la guillotine. Là, mon père s'arrêta et me montrant l'échafaud avec sa canne. Tiens, me dit-il, regarde, c'est ainsi que tu finiras si tu ne changes pas. Horrible prédiction dans la bouche d'un père. Sur quoi était-elle basée? Dans toute ma vie, je n'avais jamais fait à la maison un seul acte de méchanceté. Dès ce moment, un lien invisible exista entre moi et l'affreuse machine. Oh, j'y pensais souvent, sans pouvoir m'en rendre compte. Je finis par m'habituer tellement à cette idée que je me figurais que je ne pouvais pas mourir autrement. Que de fois j'ai été guillotiné en rêve. Aussi cette cérémonie n'aura pas pour moi le charme de la nouveauté. Il n'y a à vrai dire que depuis que je suis en prévention, que je ne fais plus de ces rêves-là. Mon père devenait tous les jours bourru et intolérant de plus en plus. Il ne trouvait jamais rien de bien et cherchait noise à tout le monde, excepté à mon frère. Enfin, il n'y avait plus moyen de l'aborder. Fallait-il attribuer ce redoublement de mauvaise humeur à l'âge ou aux circonstances? Quelle était sa position alors? Quelque temps après être venu se fixer tout à fait à Lyon, et avoir abandonné la campagne pour nous faire faire notre éducation, mon père s'était remis dans le commerce. Habitué à une vie toute d'activité et d'occupation qu'il avait pu entretenir dans une propriété rurale, il s'était promptement ennuyé à la ville dans son oisiveté. D'ailleurs, se voyant à la tête d'une nombreuse famille, il crut ne pouvoir lui laisser trop de fortune. fatale ambition paternelle. Il entreprit alors le commerce de soierie, qui allait très bien à Lyon à cette époque, mais il n'y entendait absolument rien. Il fut obligé de prendre un associé sans capitaux, mais au fait de la fabrique. Une association avec mon père ne pouvait pas durer longtemps. Aussi, après avoir rompu divers actes de société, pour être absolument maître chez lui et pouvoir y commander à son aise, il resta seul et se contenta de prendre des premiers commis qui fussent à même de surveiller la fabrication, car pour lui il ne s'entendait absolument rien qu'à la comptabilité. Qu'en arriva-t-il? Les commis, qui avaient un intérêt dans les bénéfices sans participer aux pertes et ne risquant de cette manière aucun capitaux, l'entraînèrent dans de fausses spéculations qui lui firent vendre à des gens sur lesquels ils avaient de mauvais renseignements et qui manquèrent plus tard, de sorte que peu à peu, au lieu de l'augmenter, mon père voyait diminuer sa fortune. Semblable aux joueurs qui courent après leur argent, loin de quitter la patrie, il ne s'y engagea que de plus belle. Mais il ne parlait jamais à personne de ses pertes. C'était là sans doute la cause de ces fréquentes bourrasques que nous avions essuyées à la maison. Avant ce commencement de déconfiture, mon père avait eu l'intention de me destiner au barreau ou à la médecine, parce qu'alors il avait le moyen de me faire suivre les cours nécessaires. Mais lorsqu'il vit, pour ainsi dire, l'impossibilité, d'après le délabrement toujours progressif de ses affaires, il changea d'idée et résolut de me faire entrer dans le commerce et dans celui qu'il faisait lui-même. C'était déjà la destination de mon frère. À la fin de l'année scolaire que je venais de passer au lycée, mon père me mit en apprentissage chez un de ses ouvriers pour y apprendre la fabrique, ainsi que ses usages pour ceux qui se distinguent à cette partie. Mais, fidèle à son système de contraintes qu'il avait continuellement mis en pratique à mon égard, il voulut m'attacher à une chaîne si courte que je la brisais de colère. Ce n'était pas ainsi qu'il eût fallu s'y prendre avec moi. Les vexations ne faisaient que m'irriter. Je me raidissais contre la force et l'autorité paternelle dans toute sa rigueur, et j'eusse cédé à la douceur et à l'affection. Je déclarai résolument à mon père que je ne voulais pas absolument suivre cette carrière et que rien au monde ne pourrait m'y forcer. Je m'y pris de manière à le convaincre, et au bout de 2 mois de ce triste apprentissage, j'en fus débarrassé. Et comme nous étions arrivés à la fin des vacances, mon père résolut à tout hasard et en attendant mieux de me faire terminer mes études. Mais il ne voulut pas me garder à la maison et je crois qu'à ce moment, il n'avait pas tort. Il m'envoya au collège de Chambéry. L'année que j'y ai passée m'a laissé peu de souvenirs. Vie de collège, voilà tout. Je me souviens pourtant que j'y fus heureux, sauf sur les derniers jours. Je terminais là d'une manière brillante mes études, mais j'éprouvais encore une catastrophe. Oh, il était sans doute écrit que je serais renvoyé de tous les collèges. 15 jours avant les vacances, étant en promenade, le pédagogue qui nous conduisait voulut infliger une punition à un des plus jeunes du collège. C'était fort injustement. Je m'y opposais. Alors il voulut me punir à sa place. Et comme je résistais, il se mit en devoir d'employer l'argument ad hominem. Nous nous battîmes ensemble comme 2 Hercules, ou plutôt comme 2 chiffonniers. Malheureusement, mon adversaire était un ecclésiastique. Mon action fut regardée comme un véritable sacrilège plutôt que comme un acte d'indiscipline. Je fus mis au cachot et condamné à y rester jusqu'aux vacances. On écrivit à mon père pour lui rendre compte de ma conduite, en ajoutant que, par égard pour lui, on voulait bien ne pas me renvoyer avant la fin de l'année, mais que je resterais en punition jusqu'à mon départ. Je m'ennuyais horriblement dans ce cachot, et beaucoup plus que dans mon cabanon de la conciergerie. Je brisais 3 ou 4 portes à différentes fois pour m'évader. Ensuite, j'allais tranquillement me promener dans le jardin du directeur et quelquefois même en ville. Je rentrais ensuite quand j'étais là, car, étant absolument sans argent, je ne jugeais pas à propos d'entreprendre à pied la promenade de Chambéry à Lyon. Ces 15 jours de punition m'ont duré beaucoup, parce que je n'ai peut-être pas dormi 24 heures dans cet intervalle. Pour me distraire dans ma solitude, je m'adonnais tout à fait à la poésie, ce qui m'empêchait souvent de dormir. J'y composais un poème burlesque de près de 2000 vers. Il ne faut pas s'en étonner. Il n'y a peut-être personne qui ait une aussi prodigieuse facilité que moi à faire des vers, bons ou mauvais. Je ne dis pas ceci pour m'en glorifier. C'est un véritable don de nature et je n'ai certes aucun mérite en avoir été favorisé. Mais une chose digne de remarque, c'est que je n'aimais pas à montrer mes compositions ou que si je les lisais à quelqu'un, je n'en laissais jamais prendre de copie. J'ai conservé cette habitude jusqu'en 1833, époque à laquelle, dans un but d'intérêt seulement et non d'amour propre, je commençais à rendre publiques quelques-unes de mes chansons politiques. Il est donc tout à fait faux, quoique quelques personnes, en apparence digne de foi, l'aient annoncé, que qui que ce soit ait aucune pièce autographe de moi, datée d'avant 1833. Et par conséquent, comme on le prétend, des compositions de ma jeunesse. Il n'en existe pas. Et s'il paraissait jamais quelque chose de ce genre dans le public, ce ne serait que des pièces apocryphes, lancées par nos jongleurs littéraires, de la part desquels, du reste, aucun charlatanisme, aucune effronterie ne me surprendrait aujourd'hui. Que de douceur, de jouissance la poésie a apporté dans mon existence. C'est à elle que je dois mes plus beaux moments. Elle m'a consolé dans bien les tribulations. J'étais né poète, enfin. Il n'y a qu'un poète qui puisse comprendre ces jouissances-là. Oui, fussé-je dans une île déserte comme Robinson, je ferais des vers. Je ferais des vers pour moi seul, pour le seul plaisir d'en faire, pour les réciter aux arbres ou aux chèvres sauvages. J'ignore si tous les poètes sont comme moi. Mais si je compose des vers avec facilité, je les oublie de même. Aussi je ne peux livrer au public que ceux qui ont été conservés par d'autres que par moi, en vertu d'un dépôt. Sans cette précaution, je ne serais pas plus avancé pour ces dernières poésies que pour les autres. Il ne m'en resterait pas un mot dans la tête. Sans exagération, j'estime qu'en toute ma vie, je peux avoir composé près de 30 000 vers. Allez les chercher aujourd'hui. Ce qu'il y a encore de particulier, c'est que, sauf de petits poèmes burlesques, je n'ai jamais essayé de composer quelque ouvrage de longue haleine. Odes, satires, chansons, telles ont toujours été mes compositions favorites. Si j'aime la poésie, en revanche, rien n'est aussi assommant pour moi que d'écrire en prose. C'est dommage, lecteur, qu'il soit si difficile au langage des muses de se dépouiller de l'hyperbole. Sans cela, tu aurais eu le plaisir de lire mes mémoires en vers, et cela m'eût beaucoup moins coûté que cette mauvaise prose. Et qu'on ne soit pas étonné d'avoir pu trouver un poète assassin, je ne suis certes pas le seul. Derrière mort encore un jeune nourrisson des bus de Bar-le-Duc m'a gratifié d'une pièce de verre qui était bien faite pour assassiner un homme. J'ai déjà trop fait de mal à la société pour me permettre de la mettre sous les yeux du public. Ceux qui m'auront lu jusque-là s'apercevront aisément que j'ai été renvoyé de tous les collèges, ou du moins prié de ne pas y revenir. Je n'ai pu sauver que les honneurs de la guerre. Et pour quel motif toujours? Les premières fois parce que je pouvais être bigot, et la dernière parce que j'avais voulu m'opposer à une injustice qui ne me regardait pas, il est vrai. Je n'en avais que plus de mérite, bien que je n'ai jamais eu l'habitude de me mêler des affaires des autres. Si j'avais horriblement péché en portant la main sur un prêtre qui m'avait frappé le premier, j'en fus puni d'une manière effrayante. Car outre les 15 jours de cachot, je fus privé de l'honneur d'être couronné et de recevoir les prix que j'avais mérités. Je m'en moquais autant que d'une pipe de tabac, c'est-à-dire autant que je pouvais m'en moquer alors, parce que je ne fumais pas. Je n'avais point encore contracté ce vilain défaut. Non, puisque j'ai prononcé ce mot-là, je ne le quitterai pas sans en dire quelque chose. Le tabac joue un plus grand rôle dans la vie humaine que l'on ne pense, surtout le tabac fumé. Au moins, il en a joué un grand dans la mienne. Sans le tabac, je serais peut-être actuellement un bon négociant. Ce sont ces bizarres et vaporeuses ondulations qu'on voit avec tant de charme se développer dans les airs, qui m'ont perverti en me livrant à une contemplation toute de poésie et d'extase, d'où je ne sortais qu'à regret pour rentrer dans les choses de ce monde. Quand je fume, je rêve réellement, tout éveillé. Fumée et poésie peuvent-elles aller l'une sans l'autre? Quant à moi, je ne saurais concevoir un poète qui ne fume pas. Il n'y a rien comme la pipe pour échauffer l'imagination et vous entretenir dans une molle indolence, loin de la réalité, dans un monde imaginaire. Mais comment un homme qui ne fume pas peut-il rester inoccupé? Si j'avais un fils, je ferais ce que je pourrais pour l'empêcher de fumer jusqu'à sa majorité, à moins que je ne fusse assez riche pour en faire un flâneur ou un poète. Je ne ris pas, soyez-en bien sûr. Je m'étonne même qu'aucun physiologiste ne se soit occupé de cette matière. C'est probablement parce que les physiologistes ne sont pas fumeurs. Cela viendra sans doute avec le temps. Jusque-là, je soutiens que l'homme à idées qui fume est perdu pour les affaires de ce monde. Avis aux pères de famille, aux jeunes élèves qui sortent du collège pour entrer dans les staminets. Cet abîme qui engloutit autant de jeunes gens que les maisons de jeu. Enfin, le jour de ma délivrance arriva. Je fus déposé à la voiture de Chambéry pour Lyon. C'était une petite patache qui mettait 2 jours à faire le trajet. On couchait au pont de Beauvoisin. Ce fut dans l'auberge où l'on s'arrêtait d'ordinaire que je fus pour la première fois initié au mystère de l'amour par une de ces filles complaisantes qui servent les voyageurs à table. Mon physique était loin d'être aussi développé que mon moral. J'avais eu déjà, sans en profiter, bien des occasions de me débarrasser de ma robe d'innocence, sans parler même du temps où j'étais externe au lycée de Lyon, époque à laquelle j'allais souvent avec des camarades plus formés que moi dans les maisons dites d'éducation. Mais je me contentais de rire, de me plaisanter avec les femmes qui s'y trouvaient. Mais c'était tout. Mes sens n'avaient pas encore parlé. On sent bien qu'avec de pareilles créatures, mon cœur ne pouvait pas être de la partie. Je jugeais donc inutile de porter plus avant ce qui n'eût été de ma part qu'un simple mouvement de curiosité, dans la crainte d'user mon tempérament par des excès anticipée. La pauvre fille qui avait mes prémices au pont de Beauvoisin eut beaucoup de peine à se le persuader, tellement elle me trouva différent de ce qu'elle avait vu dans la même position que moi. Je ne fus avec elle ni timide ni passionné. On eût pu dire à un homme de 30 ans. En sortant de ses bras, je disais, entre mes dents, « Quoi, qu'est-ce que cela ? » Ma complexion amoureuse était d'une singulière nature. Vous allez en juger. Je n'ai été sérieusement amoureux qu'une seule fois dans ma vie. Cet amour-là a duré 5 ans, et peut-être encore subsisterait-il aujourd'hui si je n'eusse été séparé de l'objet de mon véritable culte d'une manière violente. Quelque temps après mon entrée dans le monde, je fis par hasard la connaissance de Madame d'Ormeuil. Je lui donne ici un nom de comédie. Je serais bien fâché de la signaler plus exactement, car il peut bien se faire que son mari vive encore, et je pense qu'il serait flatté, moins que jamais, de connaître l'intimité qui a régné entre moi et son aimable femme. Lorsque je la vis pour la première fois, ce fut comme une commotion électrique qui me réveilla d'un long engourdissement. Il me sembla que c'était là la femme que j'avais toujours rêvée. Fort heureusement pour moi, il y eut sympathie des deux côtés et je ne déplus pas à Madame d'Ormeuil. Elle me répondit à la fin de la soirée, de manière à me laisser croire que je ne lui étais pas indifférent. Enfin, notre intelligence fut bientôt complète. Nous nous aimâmes tous deux avec une égale passion. Cependant, j'avais beaucoup de ménagements à prendre. Si le mari nous eût surpris, sa femme était perdue. Pendant longtemps, je me contentais de lui rendre des visites chez elle, et souvent même en présence du jaloux, qui, je le pense, ne s'est jamais défié de moi. Notre liaison, faute de circonstances propices, demeura pendant près de 4 mois tout à fait platonique. Peut-être n'eût-il tenu qu'à moi de faire cesser cet état plus tôt, mais je m'en gardais bien. Je tremblais, au contraire, tout en faisant l'empresser, craignant le moment où il ne me serait plus permis de reculer pour ravir la dernière faveur. C'est que, tout en adorant Madame d'Ormeuil, mes sens ne me disaient rien auprès d'elle. Je la contemplais avec extase, c'était ma divinité. J'étais heureux dans cette position, et je craignais que la jouissance et la possession devinssent y mettre un terme. J'avais déjà fait de belles observations sur mon tempérament à l'égard de 2 ou 3 petits caprices que j'avais eus. J'avais remarqué que ce but auquel des 2 amants tendent sans cesse était pour moi le tombeau du désir. Et je craignais de détruire de ma propre main l'idole que je m'étais créée. Et je ne me trompais pas. Vint le moment où, sous peine de passer pour un sot ou un eunuque, je fus obligé de sortir du sentier que je m'étais tracé avec tant de plaisir. Monsieur d'Ormeuil, ayant quitté Lyon pendant quelques jours, nous eûmes alors un peu plus de liberté et des caresses un peu plus vives que d'habitude, et auxquelles nous n'étions accoutumés ni l'un ni l'autre. Nous allumèrent les sens. Je triomphais en apparence. Notre liaison a duré 5 années, pendant lesquelles j'ai toujours aimé passionnément Madame d'Ormeuil. Mais je n'ai jamais, depuis cette circonstance, retrouvé près d'elle ce charme inconnu et enivrant qui ne peut se définir et qu'on ne goûte, je pense, qu'une fois dans sa vie. Je crois qu'il en a été de même de son côté, quoiqu'il n'ait jamais voulu me le laisser deviner, mais ce qu'il y a de certain, c'est que chez elle, le cœur l'emportait aussi sur les sens. Ce tendre commerce ne m'empêchait pas de faire de temps en temps quelques orgies avec mes amis et de fréquenter les bons endroits de la ville. Mais cela n'altéra en rien mon amour pour madame d'Orneuil, à qui je le rapportais au contraire plus pur. Aussi n'était-elle nullement jalouse de ces légères distractions que je lui avouais même plusieurs fois. Lorsque, plus tard, elle m'a été ravie par un coup imprévu, mon cœur a été enterré avec elle. C'est ma sylphide qui l'a remplacée dans ce moment-là, aussi elle m'est apparue bien souvent sous ses traits. Ne vous étonnez donc pas de l'inspiration poétique qu'elle m'a fournie. Je n'ai fait que mettre en vers le rêve de mon existence. Depuis lors, mon cœur n'a plus aucune part dans mes liaisons amoureuses, sauf pour une petite grisette qui m'inspira pendant quelques jours un caprice assez fort. Je fis ce que je pus pour arriver à sa possession. Je la mis en chambre sans avoir encore rien obtenu d'elle. Enfin, la veille du jour que je croyais devoir éclairer un triomphe, j'étais allé à la chasse après en avoir prévenu ma dulcinée. Je revins de meilleure heure que je n'avais compté. Je n'eus rien de plus pressé que de me présenter chez elle. J'y trouvai, à mon grand désappointement, un jeune homme de ma connaissance qui avait obtenu du premier coup ce qu'elle m'avait refusé avec tant d'opiniâtreté. Il est vrai qu'il avait fait les choses plus grandement que moi. À cette vue, bien qu'amoureux comme un fou un quart d'heure avant, ma passion s'éteignit tout d'un coup. Loin de m'emporter, je partis d'un grand éclat de rire, je remerciai celui qui avait déchiré le bandeau, et je sortis avec mon rival, non pour me battre, mais pour boire un bol de punch à sa réussite et à ma guérison. Dès lors, j'ai évité constamment et avec le plus grand soin l'attachement, même le plus léger en apparence. J'avais appris ce que c'était que l'amour par ma propre expérience. Je fus convaincu que c'est un ennemi qu'il ne faut jamais s'aviser de combattre, et que ce n'est qu'en fuyant qu'on peut éviter sa défaite. Aussi, lorsqu'une femme faisait une certaine impression sur mon cœur, je l'évitais comme la peste. Je ne fus plus pour le sexe qu'un véritable satyre, cherchant à satisfaire ses passions brutales, et ne fréquentant plus que les Vénus dont les charmes sont cotés comme une marchandise. Cette méthode était en vérité bien moins dispendieuse et m'évitait tout l'ennui d'une déclaration et les préliminaires ennuyeux d'une conquête galante avec des créatures qui ne valent guère mieux que les autres. Cependant, je dois le reconnaître, j'ai toujours aimé les femmes, non pour ma jouissance, mais à cause des aimables qualités, surtout de la sensibilité exquise qui les distingue. Sous ce point de vue, il y a une énorme différence entre l'homme et la femme. Qu'une femme vous trompe en amour, je lui pardonne, nous le lui rendons bien, Dieu merci. Ce n'est le plus souvent que la vanité qui nous attache à elle. Mais si on a ce léger reproche à lui faire, de perfidie et d'inconstance, par combien d'autres qualités n'est-il pas compensé? Ce n'est qu'avec elle qu'on trouve ce commerce affectueux, dégagé de tout intérêt, ce cœur si tendre qui s'ouvre à toutes les émotions de la pitié, qui soulage toutes les infortunes avec une inappréciable délicatesse et un tact inné de convenance, qualité que vous ne découvrirez jamais chez l'homme qui se prétend son seigneur et maître et qui se pique de vertu. Tandis qu'au contraire, chez la femme la plus corrompue, vous rencontrerez encore de ces élans de sensibilité qui ravissent. Que les femmes me pardonnent donc si j'ai été si longtemps insensible à leur charme. Je sais du moins rendre justice à leur cœur. Il y a plus de vertu dans une seule femme qu'au fond de l'âme de 10 philosophes.